VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 29 novembre 2022. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Les titres pour commencer, journal de la Coupe du Monde d'Eric Manirakiza, le programme de la troisième et dernière journée de la phase de poule débute ce mardi et s'achève vendredi. Au Tchad, les avocats en grève pour protester contre le procès de masse des manifestants qui commence ce mardi. Menace de représailles de la Centrafrique qui dit qu'un avion étranger a bombardé ses soldats et leurs alliés russes. Rébellion du M23 en RDC, calme relatif, mais pas de retrait des zones occupées par la rébellion dans l'est du pays. En Somalie, fin du siège de l'hôtel Villa Rose à Mogadiscio. Au moins 8 civils tués. Le président américain Joe Biden suit de près les manifestations en Chine. Tout de suite, le journal de la Coupe du Monde d'Eric Manirakiza. Plusieurs pays joueront leur survie dans la compétition lors de cette troisième et dernière journée des phases de poule du Mondial 2022 qui débute ce mardi. La France, le Brésil et le Portugal sont déjà qualifiés, tandis que le Ghana a battu hier la Corée du Sud 3-2 au bout d'un match renversant. Eric Manirakiza.
La bataille s'annonce incertaine entre l'Équateur et le Sénégal, toujours en course dans le groupe A. Un nul qualifierait l'équipe sud-américaine qui s'inquiète pour son capitaine Ener Valencia comme meilleur buteur du tournoi avec 3 buts et blessé au genou droit. En face, les champions d'Afrique doivent gagner pour se qualifier. Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a invité ses joueurs à faire passer le jeu avant l'enjeu.
Nous savons qu'il n'y a pas de calcul à faire. C'est un match qu'il faut impérativement gagner pour pouvoir avoir la chance de continuer cette aventure-là. Tous les scénarios sont envisageables. Effectivement, il leur faut un point. En début de ce match-là, ils l'ont déjà, ce point-là. Donc c'est à nous de faire le nécessaire justement pour faire bouger le match et essayer de marquer ce but-là qu'on désire tant. Faut pas qu'on rentre sur ce terrain tétanisé et pensant à l'enjeu de ce match-là. Nous savons que tout peut se passer dans ce match-là. Ça peut être un match bloqué, ça peut être un match frustrant, mais le tout c'est garder justement cette lucidité-là et on sait que n'importe quand, le passé nous l'a déjà montré qu'on était capable de marquer.
Alors que le Sénégal a été sacré champion d'Afrique la saison dernière, une qualification pour le tableau final validerait par ailleurs les progrès des Lions sur la scène internationale. Toujours dans le groupe A, les Pays-Bas n'ont besoin que d'un point ce mardi contre le Qatar, pays hôte déjà éliminé pour terminer en tête. À suivre également aujourd'hui, l'Iran deuxième et les États-Unis troisième du groupe B s'affrontent pour la seconde fois dans un match à l'enjeu sportif crucial. Une défaite serait synonyme d'élimination. L'Angleterre vise la première place du groupe avec une victoire dans le derby face au Pays de Galles, dernier, mais qui peut se qualifier s'il gagne.
Eric, le Brésil et le Portugal rejoignent la France en 8e de finale avant même la dernière journée de la phase de groupe.
Tenace à défaut d'être étincelant, le Brésil s'est défait hier de l'étau suisse 1-0. Pour accéder au 8e de finale, laissant Casemiro ponctuer d'un but tardif sa domination collective en l'absence de Neymar blessé. Le Portugal s'est qualifié pour les 8e grâce à une victoire sur l'Uruguay 2-0 dans la poule H. Des supporters du Portugal expriment leur joie à la sortie du stade.
Oh, c'était un grand match pour nous. Bruno Fernandes a été énorme, incroyable.
Dans un match à rebondissement, le Ghana est venu à bout de la Corée du Sud, 3-2 pour la deuxième journée du groupe H et se relance pour les 8e. Le Cameroun mené 3-1 à un peu moins d'une demi-heure de la fin s'est maintenu en vie dans ce mondial 2022 en accrochant la Serbie 3-3 au terme d'un match fou entre deux équipes en ballottage et trêve défavorable au sein du groupe G. Suivez le coup de sifflet de Jules Valentin Ngwe.
La deuxième journée du mondial s'achève sur une note de satisfaction pour la Légion africaine qui, à défaut de compter un qualifié, avance incontestablement ses pions, aussi bien par les résultats que par la manière, profitant pleinement d'un retour en grâce apprécié auprès des juges de la VAR. Le Maroc qui a mystifié un des ténors de la compétition, la Belgique de Kevin De Bruyne, dimanche, a sonné la révolte des sous-côtés. Il ne lui reste plus qu'à transformer l'essai face à un néophyte canadien. Sa principale menace pourrait être un excès de confiance mal placé. Message reçu par les Camerounais qui ont réussi une extraordinaire remontada devant les ex-Yougoslaves toujours aussi redoutables. Un coaching gagnant du sélectionneur Rigobert Song, décrié jusque-là, a permis à la doublette d'attaque Vincent Aboubakar Choupo-Moting de retrouver sa complicité et sa verve avant la première victoire du Ghana en seconde rencontre. Mais auparavant, le Sénégal avait ouvert le bal dès vendredi avec une victoire éliminatoire sur le pays organisateur. Il s'apprête à livrer un authentique 16e de finale direct contre une formation équatorienne revalorisée par sa prestation remarquable devant l'ogre néerlandais. Dans une opposition de style toujours difficile à négocier, les champions d'Afrique tenteront d'imposer leur percussion à la technique retrouvée des Sud-Américains ce soir. Bref, personne n'est encore officiellement éliminé, mais il est certain que tous se battront pour la fierté de tout un continent. À bientôt.
Le match victorieux du Portugal face à l'Uruguay a été marqué pour la première fois depuis le début du tournoi par l'irruption sur la pelouse d'un homme portant un drapeau arc-en-ciel et un t-shirt soutenant à la fois l'Ukraine et la cause des femmes en Iran.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Merci à Eric. Dans le reste de l'actualité, au Tchad, les avocats ont décidé d'interrompre leur travail pendant un procès collectif qui doit s'ouvrir aujourd'hui. Plus de 400 personnes détenues depuis les manifestations meurtrières du mois dernier doivent être jugées. Le point avec Jenny Noua.
Dans son communiqué, le barreau du Tchad qualifie ce procès de parodie de justice, ajoutant que les détenus ont été enlevés et déportés à Korotoro en l'absence de tout avocat. Le procès dans cette prison isolée viole les règles de procédure, selon l'association des avocats tchadiens, qui a décidé de cesser toute activité pendant la durée du procès. Quelques 401 détenus seront jugés jusqu'au 4 décembre dans une prison de haute sécurité en plein désert à plus de 600 km au nord-est de N'Djamena. Selon les procureurs, les accusés doivent répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont la participation à un rassemblement non autorisé, destruction de biens, incendie criminel et troubles de l'ordre public. Selon le procureur général, 621 personnes ont été arrêtées et ont été transférées à Korotoro. Il précise que des enquêtes sont en cours pour quelques 220 personnes, dont 83 mineurs. Les groupes d'opposition avaient appelé à des manifestations pacifiques le 20 octobre. Le général Mahamat Idriss Déby Itno avait accusé les manifestants d'insurrection et de tentative de coup d'État.
Le gouvernement centrafricain a affirmé hier qu'un avion reparti dans un pays voisin du Nord a bombardé une base de l'armée et de ses alliés paramilitaires russes dans le nord-ouest du pays. Bangui menace de représailles, Lionel Gahima.
L'appareil a largué des explosifs dans la ville de Bossangoa, prenant pour cible la base de nos forces de défense, celle de nos alliés, ainsi que l'usine de coton, assure dans un communiqué le gouvernement. C'est la première fois que Bangui annonce publiquement une attaque présumée par un avion hostile depuis le début de la guerre civile en 2013. L'attaque a été perpétrée peu avant 3h du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Les explosifs ont occasionné d'importants dégâts matériels, poursuit le communiqué. L'aéronef après avoir commis ses forfaits, a pris la direction du Nord, assure le gouvernement. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités de cet acte ignoble qui ne saurait rester impuni, conclut le communiqué. Les relations sont tendues entre le Tchad et la Centrafrique. Bangui reproche N'Djamena de laisser des groupes armés utiliser son territoire comme base de repli. N'Djamena a accusé cette année un important chef rebelle tchadien d'avoir cherché le soutien du groupe russe Wagner, même si ce dernier a finalement rallié le pouvoir tchadien.
En RDC, le cessez-le-feu entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise semble tenir lundi dans l'est du pays, mais selon des témoignages, aucun mouvement de retrait des zones occupées par la rébellion, comme demandé par le sommet de Luanda, ne semblait s'amorcer. Les deux camps continuaient de s'observer sur les différentes lignes de front, dont celle de Kibumba, la plus proche de la grande ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Un calme fragile règne, laissant penser que les appels à cesser le feu pourraient avoir été entendus. Le mini-sommet de Luanda avait demandé un cessez-le-feu dès vendredi soir, suivi deux jours plus tard du retrait des rebelles du M23 des zones occupées et de leur repli dans leur position initiale dimanche. Mais aucun mouvement de retrait n'était enclenché lundi. En Somalie, les forces de sécurité ont mis fin hier au siège d'un hôtel de Mogadiscio par des islamistes Shebab, au terme d'affrontements qui ont fait au moins 14 morts, dont 8 civils, Jean-Roger Bion.
L'opération à l'hôtel Rosa est terminée, a déclaré un porte-parole de la police, Sadiq Aden Ali. 8 civils ont été tués ainsi qu'un policier par les assaillants qui étaient au nombre de 6, a-t-il indiqué. L'un s'est fait sauter, les cinq autres ont été abattus par les forces de sécurité, a ajouté le porte-parole. Selon lui, l'attaque a été menée depuis dimanche soir pendant presque 21 heures par 6 personnes. Les forces de sécurité somaliennes ont secouru au moins 60 personnes. Cette dernière attaque intervient alors que le président Hassan Sheikh Mahmoud, élu en mai, a décidé d'engager une guerre totale contre les islamistes Shebab. Le 29 octobre, deux voitures piégées ont explosé à quelques minutes d'intervalle à Mogadiscio, tuant au moins 121 personnes dans l'attaque la plus meurtrière depuis 5 ans. Aussi, début octobre, un triple attentat à la bombe à Beledweyne, dans le centre du pays, a fait au moins 30 morts et en août, 21 clients d'un autre hôtel de Mogadiscio ont été tués après un siège de presque 30 heures.
Ici aux États-Unis, le ministère de la Justice a annoncé lundi l'inculpation de 3 hommes accusés d'avoir aidé au financement de groupes de combattants séparatistes au Cameroun. Les 3 hommes, des ressortissants américains d'origine camerounaise, sont accusés d'avoir levé $350 000 pour l'achat d'armes et de matériel de fabrication de bombes à destination des séparatistes de l'Ambazonie, un groupe qui opère dans la région anglophone du nord-ouest du Cameroun. Le président américain Joe Biden se tient informé de ce qui se passe. Il suit cela de près, a dit lundi à propos des manifestations en Chine. John Kirby, un porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Les détails avec Mohamed Humfa.
La Maison-Blanche soutient le droit de manifester de manière pacifique, a indiqué John Kirby lors d'un échange avec la presse après des manifestations d'ampleur historique en Chine contre les restrictions sanitaires et en faveur de plus de liberté. M. Kirby ne s'est pas prononcé sur le fond de ces revendications, se contentant de dire « ces manifestants parlent pour eux-mêmes ». Il a signifié la volonté américaine de garder les canaux de communication ouverts avec les autorités chinoises. Dimanche, une foule de manifestants répondant à des appels sur les réseaux sociaux et descendu dans les rues, notamment à Pékin, Shanghai et Wuhan, prenant les forces de l'ordre au dépourvu. Par son étendue sur le territoire, la mobilisation semble la plus importante depuis les rassemblements pro-démocratie de 1989, durement réprimés. Parmi les slogans scandés à l'unisson, il y avait « Pas de test Covid, on a faim, Xi Jinping démissionne, Parti communiste chinois retire-toi » ou non au confinement, nous voulons la liberté. L'incident mortel survenu à Urumqi, capitale de la province du Xinjiang, a catalysé la colère de nombre de Chinois pour qui les restrictions sanitaires ont entravé les secours. Elles ont finalement été assouplies dans cette ville où, dès mardi, les habitants pourront se déplacer en bus pour faire leurs courses. À l'étranger, des veillées ont été organisées par des membres de la diaspora en hommage aux victimes, comme à Los Angeles dimanche ou à Washington lundi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idriss Sassé Doudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En RDC, la date des élections présidentielles et législatives est connue depuis le week-end. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, a fixé ses scrutins au 20 décembre 2023. Ce calendrier suscite plusieurs réactions. L'opposition le trouve irréaliste à cause de plusieurs contraintes avancées par la CENI, mais le gouvernement assure qu'il va disposer des moyens nécessaires pour tenir ses échéances. Les détails avec notre correspondant à Kinshasa, Alex Katikatai.
Ce calendrier prévoit une période d'un an pour réaliser les grosses opérations électorales. Par exemple, l'enrôlement des électeurs commence fin décembre 2022 et durera 3 mois pour l'ensemble du pays. Pour ce faire, la CENI a divisé le pays en 3 zones et chaque zone aura 30 jours pour enrôler ses électeurs. Un délai trop court et irréaliste, estime Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan, un parti de l'opposition.
Les dates telles que prévues dans ces calendriers sont de dates volontaristes. La CENI a voulu montrer qu'elle a cette volonté, mais de manière pratique, de manière concrète, nous sentons qu'elle ne pourra être en mesure de pouvoir respecter justement ces timings tels que prévus dans son propre calendrier.
Le calendrier de la CENI fixe au 20 décembre 2023 le jour du vote. Et pour la première fois, les élections législatives locales seront organisées. Elles auront lieu le même jour que la présidentielle et les législatives nationales et provinciales. Une avancée qui salue Jonas Tombela de la société civile. Mais il craint que les nombreuses contraintes énumérées par la CENI n'empêchent la tenue de ces élections dans le délai constitutionnel.
Si on ne tient pas compte de ces contraintes évoquées par la CENI à charge de notre gouvernement, il y a risque qu'on n'ait pas d'élections dans le délai constitutionnel. Tout un travail doit être fait en amont pour que le gouvernement puisse résorber toutes ces contraintes et qu'on arrive à avoir les élections dans le délai constitutionnel pour éviter encore d'autres types de crises. Déjà, le pays est en pleine crise d'ordre sécuritaire.
La publication de ce calendrier électoral est un signal fort que la CENI a envoyé aux acteurs politiques, affirme Jacquemain Chabani, de l'UDPS, parti au pouvoir. Il précise que son parti s'est mis au travail dès maintenant pour être prêt le jour J.
Ça nous rassure davantage sur l'effectivité de l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Donc je crois que, en tout cas, nous, UDPS, nous allons encore fournir plus d'efforts pour nous mettre en position de bataille, pour préparer notre parti, nos troupes, nos candidats, nos équipes de campagne à affronter ce prochain scrutin.
Du côté gouvernement, on affirme que l'organisation des élections est une obligation constitutionnelle et non une faveur. Tous les moyens seront donc mis à la disposition de la CENI pour s'acquitter de sa responsabilité. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement.
Sur un financement d'à peu près 600 millions de dollars à ce jour, on est autour de 400-450 et d'ici la fin de l'année, cela sera soldé. Parce que nous croyons que nous allons organiser les élections, non pas parce que les autres vont nous obliger, non. Parce que nous sommes convaincus que les élections, c'est la voie à partir de laquelle on renouvelle les dirigeants. Mais ici, nous, en tant qu'État, nous faisons ce qui est de notre devoir pour ce qui concerne l'organisation des élections.
L'une des grosses inquiétudes de la CENI est la situation sécuritaire dans l'Est du pays qui risque de compliquer les choses. Denis Kadima, président de la CENI, a tenu à rassurer les parties prenantes que le mot glissement ne figure pas dans son vocabulaire. Il invite les uns et les autres à se mettre au travail. Alex Katikatai, Kinshasa, VOA Afrique.
À Yaoundé, la capitale camerounaise, les secouristes recherchaient hier d'éventuels survivants piégés par un glissement de terrain qui a fait dimanche au moins 15 morts et plusieurs blessés. Les victimes assistaient à des funérailles lorsque le glissement de terrain s'est produit. De Yaoundé, un reportage de Moki Edwin Kinzeka. Le récit est de Nanit Talani.
Des civils endeuillés se joignent aux secouristes pour creuser et rechercher d'éventuels survivants piégés sous un énorme tas de décombres. Le sol et les pierres se sont effondrés dimanche soir sur plusieurs centaines de membres d'une communauté de l'ouest du Cameroun qui s'étaient rassemblés pour des funérailles de personnes décédées au cours du mois dernier. Rosette Ngefak, 50 ans, fait partie des personnes endeuillées. Elle dit avoir vu le sol s'effondrer sur des dizaines de personnes, dont ses deux fils.
Il a fendu la tête et cassé la main. On était à l'hôpital général. On a fait le scanner. À 2 heures, c'est sorti. On dit que le cerveau n'est pas touché, mais l'enfant est gravement blessé. Il est encore en réanimation. C'était trop grave. Le motoman est mort sur place et il y avait beaucoup de blessés.
Il est de tradition au Cameroun d'organiser des événements funéraires dans les villes après l'enterrement des membres de leur communauté dans les villages. Les personnes qui assistaient aux funérailles de dimanche ont déclaré qu'elles avaient prié pour les défunts et qu'elles partageaient des boissons et de la nourriture lorsque le malheureux incident s'est produit. Nasri Paul Biya, gouverneur de la région du centre du Cameroun, où se trouve Yaoundé, s'est rendu sur le site de la catastrophe pour la deuxième fois en 15 heures ce lundi matin. Il affirme que les enquêtes menées par la police camerounaise indiquent que certains civils sont toujours piégés dans le glissement de terrain.
Il y a des corps qui avaient été retirés déjà par la famille. Le secours a été vite avec les sapeurs, l'état-major du gouverneur, le préfet général. Pour le moment, nous sommes en train de transporter les corps à la morgue de l'hôpital central. La troisième tente qui est vers le mur, sur un talus, a donc été touchée par un glissement de terre qui a tué les occupants de ce chapiteau.
Selon le gouvernement, le glissement de terrain s'est produit lorsqu'un talus de 18 mètres de haut s'est effondré sur plusieurs centaines de personnes rassemblées dans une maison construite dans une zone à risque. D'après le gouverneur Biya, le talus qui a cédé n'était pas assez solide pour empêcher le sol de s'effondrer. Le ministère camerounais du logement a demandé lundi aux personnes vivant dans des zones jugées à risque de quitter immédiatement les lieux ou d'être contraintes de se reloger ailleurs. Yaoundé, une ville d'environ 3 millions d'habitants, a connu des inondations dévastatrices causées par de fortes pluies au cours des 3 derniers mois. Le gouvernement affirme que plus de 25 maisons construites dans des zones à risque se sont effondrées, blessant et tuant des dizaines de personnes.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Togo, début des grands travaux de préservation d'une partie de la côte du pays sujette à l'avancée inexorable de la mer. Sur une distance de 15 km vers la frontière est du Bénin voisin, 13 épis de roches seront disposés dans la mer afin de stabiliser la dérive des sédiments et amoindrir l'érosion côtière. De Lomé, notre correspondant Kossi Oussou.
Au bout de la rue qui traverse le village d'Agbodrafort, dont une partie a été emportée par la mer, Agbassa Atta Nikwe, président du comité villageois de développement, le regard fixé vers l'horizon, se désole de la situation de sa localité.
Nous avons une côte où nous pratiquons le football. Nous nous amusons là-bas à la plage. Aujourd'hui, on n'a plus de plage. La mer avance. À 7 mètres chaque année, à 7 mètres chaque année. Moi qui vous parle maintenant, j'ai perdu 2 hectares de terrain. C'est englouti dans la mer. Moi, je suis inquiet.
Les inquiétudes d'Agbassa Atta Nikwe sont partagées par tous les habitants des villages côtiers du Togo où la mer avance par endroits de 12 à 30 mètres par an au point critique. Le gouvernement, à travers le programme de gestion du littoral ouest africain WACA, avec l'appui de la Banque mondiale, vient de lancer les travaux de protection d'urgence de la côte. Adou Raimi Alimi Assimiou est le coordonnateur du projet WACA au Togo.
Aujourd'hui, les travaux que nous avons tant souhaités ont commencé, fort heureusement. Et je crois qu'à partir de là, les attentes des uns et des autres, surtout les communautés, qui étaient tellement impatientes que les travaux ne commencent aujourd'hui, je crois qu'au moins tout ça est dissipé.
À Aného, les camions déchargent déjà d'énormes blocs de pierre sur la plage. César Ezebio, l'ingénieur génie civil senior du projet, donne des détails sur les travaux à effectuer.
Entre Agbodrafort et Pémé, nous prévoyons de construire 7 nouveaux épis. Entre les épis, c'est prévu donc de faire le chargement en sable de mer. Maintenant, côté Aného, il y a 6 épis qui seront réhabilités, allongés. Il y a également le brise-lame qui également va être réhabilité, donc prolongé de 200 mètres. C'est prévu la construction d'une digue de sable haut d'environ 5 mètres.
À terme, ces ouvrages vont permettre aux localités touchées par l'érosion d'avoir un répit d'au moins un demi-siècle. Tranquillin Vincent, ingénieur chargé de l'exécution des travaux.
Les épis et le brise-lame ont été l'objet de tests miniatures dans un laboratoire en France. Et les études de faisabilité technique avaient dimensionné ces ouvrages pour une durée de 50 ans. Par contre, les rechargements de sable entre les épis, ce rechargement a été dimensionné pour une durée de 20 ans.
Pour Dame Nyame Kokwe qui vit à la plage d'Anero, c'est un ouf de soulagement.
Nous remercions les initiateurs du projet Waka pour les solutions qu'ils sont en train de mettre en place pour que la mer ne nous envahisse plus. C'est vrai que le bruit des engins nous dérange, mais je pense que ce sera fini bientôt.
Dame Kokwe devra prendre son mal en patience car les travaux sur la côte togolaise vont durer 18 mois. Kossi Boussou, Lomé pour VOA Afrique.
Si le Sénégal a attendu plus de 60 ans avant de remporter sa première Coupe d'Afrique des Nations de football, il est en revanche le pays le plus titré du continent en beach soccer, avec 7 titres à son actif. L'équipe nationale du Sénégal de beach soccer vient de gagner la dernière Coupe d'Afrique qui s'est tenue le mois dernier au Mozambique. Pour comprendre l'hégémonie du Sénégal sur le beach soccer africain, notre envoyé spécial à Dakar, Abdourahmane Dia, s'est rendu sur une plage de la capitale sénégalaise et y a rencontré quelques pratiquants. Son reportage.
Le Sénégal a une façade maritime longue de 700 km. Avec de moins en moins d'espace disponible pour jouer au football, c'est au bord de cette façade maritime, comme ici sur la plage de Diamalay, dans la banlieue dakaroise, que beaucoup de jeunes viennent jouer au football. Cela a donné l'opportunité à beaucoup d'entre eux de se faire remarquer et d'être sélectionnés dans l'équipe nationale de beach soccer. Et pourtant, l'ultime rêve de la plupart de ces jeunes, c'est d'aller au-delà du beach soccer et de devenir footballeur professionnel et d'intégrer l'équipe nationale. C'est le cas de Hassan.
Ça me permet d'être en forme. Puis je viens ici pour jouer au football. C'est mon rêve, quoi. Je le fais quand je vais à l'école. Je passe deux ans de centre de formation. Et quand je viens ici, je viens pour m'amuser, quoi. Mon rêve, c'est d'aller en équipe nationale. Non, équipe nationale, comme ça, ouais.
Souleymane aussi espère devenir un grand footballeur professionnel. Il est d'ailleurs dans une école de football, mais il vient souvent à la plage pour pratiquer davantage et maintenir sa forme physique.
Au Sénégal, beaucoup de personnes aiment le football. Moi, j'aime le football depuis 2010. Je pense toujours que je peux y réussir. Je suis même dans une école de football à Grand Yoff. Je m'entraîne là-bas mercredi, samedi et dimanche matin. Mais aujourd'hui, je ne suis pas allé là-bas. Mon rêve, c'est d'intégrer l'équipe nationale du Sénégal.
Seulement, le football de plage n'est pas sans risque. Ici, il y a très peu de règles et beaucoup se retrouvent avec des blessures qui finissent par briser leur rêve de devenir footballeur professionnel.
Ils ne sont pas des joueurs et ils viennent ici pour jouer. Ils jouent avec la force. On est venu ici pour se balader, quoi. Pour juste jouer au foot, c'est juste notre rêve, quoi.
Je peux gagner une meilleure forme physique ici avec les entraînements, mais il y a un risque aussi. Si tu te blesses, personne ne va te soigner. Ils vont juste s'excuser, te demander pardon, juste comme ça.
Le football est le sport roi au Sénégal. Le beach soccer permet à ceux qui rêvent de devenir professionnels et ceux qui viennent juste pour pratiquer une discipline qu'ils aiment de se retrouver ensemble sur la même aire de jeu. Abdourahmane Dia, VOA Afrique, Dakar.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde de Lionel Ronanira Ganima, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.